Alors, nous avons avec nous en ligne le professeur Patrick Taillon. Bon après-midi, monsieur Taillon.
Bon après-midi à vous.
Alors, monsieur Taillon, dites-nous, on vous croyait, parce que le problème se pose ici au Québec, savoir que le gouvernement du Québec serait en mesure de légiférer et de faire en sorte qu'on bannisse les armes de poing au Québec, alors qu'on sait que, en général, c'est le gouvernement fédéral qui légifère en matière de crimes. Alors, expliquez-nous ça, professeur.
Bien, en fait, le fédéral a le monopole pour créer des infractions criminelles. Donc, si on veut criminaliser la possession d'une arme, il n'y a que le fédéral qui peut le faire. Mais le Québec a une compétence en matière de sécurité publique, il a une compétence aussi pour réglementer la vente de produits aux consommateurs, là, le droit privé que l'on appelle là, au Québec. Donc, ce sont des domaines qui font en sorte que le Québec pourrait intervenir soit en vertu de sa compétence en sécurité publique, soit sur l'encadrement de la vente de produits sur son territoire. On encadre déjà l'activité de la chasse aussi. Donc, il y a un espace pour agir. Cela dit, le problème dans ce dossier-là, c'est pas qui a le pouvoir, c'est que ceux qui l'ont veulent pas l'exercer. Autrement dit, le fédéralisme, c'est souvent des chicanes de compétences, où chacun dit, ben c'est moi qui devrais s'occuper de ça, ça devrait m'appartenir, ça devrait être mon pouvoir. Puis bon, au Québec, on est particulièrement sensible à ça en raison de notre histoire, puis de notre particularité linguistique et culturelle. On est attaché à cette autonomie-là. Mais par moment, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que les deux ordres de gouvernement pourraient agir, mais on dirait qu'ils se renvoient la balle pour dire que l'autre serait mieux placé ou que l'autre peut le faire si ça lui tente. Donc, dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'a annoncé M. Trudeau pour le moment? Il a annoncé une modification au code criminel qui, finalement, revient un peu à refiler la patate chaude dans la cour des villes. Pourquoi? Parce que, comme c'est une mesure controversée, hein, c'est une mesure qui a une certaine popularité dans les centres urbains, mais très impopulaire dans les milieux ruraux, notamment dans l'Ouest canadien, dans les prairies. Et donc, pour éviter d'avoir à payer un prix politique trop fort à la veille d'une élection, ben M. Trudeau, il se dit, je vais donner le pouvoir aux villes de faire leur choix, je vais intégrer leur réglementation, je vais la reconnaître comme une condition dans le code criminel à respecter. Et comme ça, si la ville de Montréal, de Vancouver, de Toronto choisit d'aller de l'avant, ben on aura encadré les armes pour une grande partie de la population, puisque la population est très concentrée dans ces centres urbains-là, et c'est là qu'il y a des violences urbaines plus inquiétantes. Puis en même temps, ben l'agriculteur des prairies ou du Québec ou du nord de l'Ontario, lui, si son village ou sa ville ne fait rien, ben le fédéral va le laisser tranquille avec ses armes. Et donc, c'est une mesure qui montre d'une certaine façon une stratégie de déresponsabilisation de la part d'Ottawa.
Ouais, mais professeur, en général, justement, vous avez parlé de la particularité de la province de Québec. C'est une province qui aime des résidus du pouvoir fédéral. De temps en temps, il y a une chicane pour un transfert de pouvoir. Et ça surprend justement le fait que le fédéral offre quasiment sur un plateau d'argent un transfert de pouvoir fédéral, justement, au Québec, à la province, et que la province refuse, ça surprend, hein? Ça serait un pouvoir de plus au Québec.
Ouais, ben il y a en fait, c'est que le Québec n'aime pas que le fédéral refile la patate chaude directement aux villes, parce que les villes, normalement, c'est de compétence provinciale. Il y a des premiers ministres d'autres provinces, là, notamment des provinces conservatrices dans l'Ouest canadien, qui ont dit, nous, on va interdire à nos villes de donner suite au projet de M. Trudeau. Dans le cas du Québec, il y a eu plutôt une motion votée par l'Assemblée nationale pour dire, si le fédéral changeait sa loi pour pointer vers nous plutôt que vers les villes, ça ferait notre affaire, ça serait plus respectueux du fédéralisme. Le problème, c'est que dans la manchette qui nous occupe ce matin, c'est que le fédéral, lui, semble, ce sont des sources anonymes, mais semble prétendre qu'il n'y a pas besoin de modifier son projet de loi puisque le Québec a déjà le pouvoir d'agir. C'est comme si Ottawa voudrait, d'une certaine manière, ne pas avoir à amender son projet de loi, voudrait le laisser tel quel, tout en disant à Québec, si vous voulez agir, on considère, nous, que vous en avez déjà la capacité, ce que j'ai tendance à croire moi aussi, mais il faut quand même admettre que c'est pas la même capacité. Créer une infraction criminelle, c'est pas les mêmes peines, c'est pas les mêmes sanctions, c'est pas la même réprobation morale que d'avoir des lois sur des permis de chasse, puis sur la manière dont on vend des armes, puis à quelles conditions on les vend. C'est pas tout à fait le même genre de règles. Fait qu'il faudra suivre. Est-ce que le gouvernement Trudeau va accepter d'amender son projet de loi? S'il le fait pas, est-ce que Québec va rester dans une posture qui est quand même facile de dire, ben, ce que Ottawa fait, c'est pas bien, mais quand on leur demande ce que vous faites, vous, ben là, ils ont plutôt tendance à dire, ben, qu'Ottawa change sa stratégie, plutôt que de dire, ben, avec le peu de pouvoir dont nous disposons, nous allons essayer d'aller de l'avant. Donc, effectivement, c'est une chicane un peu inusitée, mais ça semble être un peu la couleur particulière de ce dossier-là, c'est qu'il se renvoie la balle pour ne pas être celui qui agit, ou en tout cas, Québec serait prêt à agir, mais seulement si Ottawa modifie son projet de loi pour que ça soit fait à la manière que Québec voudrait que les choses se fassent.
Cela dit, il y a un véritable problème qui se pose dans le fait que les armes soient à proximité un peu de tout le monde. Et les armes représentent un danger pour la sécurité, surtout au Québec. On en a parlé ces derniers jours avec des tirs un peu partout, plusieurs froids, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on regarde la chose au-delà de cette chicane traditionnelle, mais il y a aussi le côté légal de la démarche. Exemple, que les municipalités par, je ne sais pas, une légifération toute municipale qui interdirait tel type d'armes, il y a fort à parier qu'il y aurait une contestation d'un tel règlement, étant donné que la compétence est plutôt claire dans le champ fédéral.
Oui, c'est pas impossible, hein, cette espèce d'astuce ou de pirouette que fait le projet de loi fédéral de refiler la question aux villes. En effet, ça pourrait faire l'objet d'une contestation. On comprend pourquoi politiquement le gouvernement Trudeau fait ça, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Dans les villes, ce serait mieux accepté comme mesure. Dans les campagnes, il y a une forte opposition. Fait qu'en disant aux villes, faites vos propres choix. Ben, le gouvernement n'a pas à porter l'odieux de ces décisions-là. Il va dire, ben, c'est le maire de Vancouver, c'est le maire de Toronto, c'est la mairesse de Montréal à qui il faut sur qui il faut mettre de la pression. Nous, on a créé le cadre qui leur permet d'agir. Vous avez raison de dire qu'il y a des intérêts puissants dans des compagnies d'armes à feu, etc., des associations qui pourraient décider de contester cette manière de faire. Je suis pas certain qu'il gagnerait automatiquement. Je pense que le fédéral a été astucieux dans sa manière de rédiger son projet de loi. Mais oui, il pourrait y avoir un débat. D'ailleurs, quand il y a quelques décennies, le gouvernement fédéral, qui était de couleur libérale à l'époque, avait créé un registre pan-canadien des armes à feu, il y avait eu des contestations judiciaires entourant la création de ce registre. Et quand le gouvernement de couleur conservateur avait quelques années plus tard mis en œuvre l'abolition de ce registre, là, il y avait eu une contestation de la part du Québec pour demander que, à tout le moins, sur le territoire québécois, on puisse récupérer les données de ce registre des armes à feu pour l'utiliser. Ce qui montre bien que Québec doit bien avoir une certaine compétence pour agir, puisqu'à une certaine époque, il se croyait autorisé et il était motivé à aller de l'avant avec ce registre. Mais bon, c'est pas la même chose de créer un registre, créer de l'encadrement, des restrictions, puis créer une véritable infraction criminelle. Puis ça, il y a seul Ottawa peut le faire. Ce qui est en ce moment dans sa loi, il dit, est une infraction criminelle, le fait de posséder une arme non autorisée par le règlement municipal. C'est un peu ça, là, je l'ai dit dans mes mots, mais vous comprenez, c'est comme s'il intègre la norme municipale comme étant une des conditions à respecter pour avoir possédé certains types d'armes. À terme, on a raison de s'inquiéter parce que là, au-delà des chicanes de pouvoir puis de compétences, plus il y a d'armes à feu, plus il y a de dangers, même pour ceux qui les possèdent. Et donc, effectivement, espérons-le que nos élus municipaux, provinciaux et fédéraux trouveront un peu plus de courage pour aller de l'avant puis assumer le prix politique qui vient avec.
Évidemment, toute la saga ce registre-là, hein, il y a quelques années, nous montre que c'est pas toujours l'intérêt uniquement du public qui est pris en considération. Il y a beaucoup d'aspects politiques, n'est-ce pas? Et ça, je pense que ça, à vous, professeur d'université, et à moi, journaliste, avocat, ça va nous alimenter, ça va nous occuper pour les prochains jours. Il faudra voir effectivement comment tout ça va se terminer. Entre-temps, vous allez avoir beaucoup de cours à donner là-dessus, professeur.
Parce que c'est une autre saga qui commence. Espérons qu'elle ne soit pas trop longue et que les gestes qui peuvent être posés, que les lois en question soient adoptées. Mais en effet, ça donne l'impression là, qu'on a droit à des demi-mesure pour le moment.
Patrick Taillon, professeur d'université, professeur de l'Université Laval, professeur de droit constitutionnel aussi, pas vrai? Alors,
oui, tout à fait.
On sera très occupé dans les prochains jours. Merci beaucoup, professeur.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Au revoir.